Alors, nous sommes dans la joie de pouvoir accueillir Claire, qui est membre de notre église, membre du corps local ici. Et donc, on ne voit pas des fois les dimanches parce qu'elle donne des missions d'intercession. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Claire.
Ben, merci Marc, merci de nous avoir invités, merci pour ta confiance. Donc, moi je suis Claire, pour ceux qui me connaissent, effectivement je viens ici depuis quelques années. Et je suis très honorée d'accueillir avec moi des membres de l'équipe d'intercession dont je fais partie. Donc Morissette, c'est notre responsable. Sylvie, elle vient du nord de la France. On avait un rassemblement hier, alors il y en a qui ont prolongé pour être là encore ce matin. Donc Sylvie du nord, Chantal qui vient de Paris, Christelle qui vient de Colombes, et une autre Sylvie qui vient de Normandie. Voilà, et quand l'équipe est au complet, on est une vingtaine et on vient un peu de toute la France. Donc j'ai rencontré Marc en décembre pour lui expliquer un petit peu ce qu'on faisait avec l'équipe d'intercession. Et donc il m'a demandé de partager avec vous ce matin comment je suis entrée dans l'intercession. Donc je voudrais pas parler de moi trop longtemps, je veux surtout parler de ce que le Seigneur il fait dans les vies. Et après je laisserai la place à Morissette, comme elle a pu être disponible aujourd'hui. Je crois que vous aurez encore des choses à apprendre avec elle et moi vous me reverrez d'autres moments. Donc, en tout cas... Comme je vous l'avais déjà dit, moi j'ai connu le Seigneur toute petite, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai passé beaucoup d'années dans les églises où c'était une habitude de venir au culte dimanche, et je regrette un peu aujourd'hui d'avoir passé toutes ces années où je lisais un peu la Bible mécaniquement, et franchement j'allais au culte parce que j'aimais la louange, et après j'aimais parler avec les gens à la fin. J'ai passé beaucoup d'années comme ça, à venir à l'église que pour ça, et dès qu'il y avait le message, off, je m'endormais. Et puis j'accusais mon église d'être morte. Je disais, ben, mon église est morte, parce que ça ne me fait rien, quoi. Mais en fait, vous savez très bien que quand on accuse l'autre, il y a trois doigts qui reviennent vers vous. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, ben, je vais réveiller déjà mon culte personnel. Et alors, je me suis un peu disciplinée, et j'ai commencé le matin à lire un peu plus sérieusement ma Bible, à y passer plus de temps que de la lire mécaniquement, vite, vite, ça y est, c'est fait, c'est bon, ma journée va être bénie, voilà. On a des tendances comme ça. Et puis, et là, comme par hasard, je ne m'endormais plus pendant les cultes. J'écoutais les messages, et puis ça me parlait, il y avait des choses allumées là-dedans, enfin, petit à petit. Et puis un jour, j'ai des amis qui connaissaient Morissette, et puis elles m'ont dit, tu sais Claire, on prie pour toi. Ben moi, je leur disais, c'est très bien, merci beaucoup, mais moi, j'ai pas de problème. Et je crois que des fois, les autres, ils voient mieux en nous ce qui va pas. Donc, il faut compter sur les frères et sœurs, quelquefois, quand ils vous disent des choses. C'est que nous, on est trop plongés dans notre guidon et on se rend pas compte. Et du coup, elles m'ont invité un jour à une convention. Et moi, j'étais hyper crispée parce qu'il se passait des choses. Jésus passait au milieu de nous, il y avait des miracles, et moi j'étais agrippée à ma chaise en me disant « je veux juste retenir ce qui est bon, je veux juste retenir ce qui est bon », j'avais hyper peur de tout. Puis en fait, j'ai dit au Seigneur « non, je t'ai demandé de me réveiller, et je sais que tu conduis mes pas ». Et lors de cette convention, Morissette a prié pour moi, et dans sa prière, elle a dit quelque chose qu'il n'y a que le Seigneur qui pouvait savoir. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des façons de prier, où on pouvait vraiment écouter le Saint-Esprit, et en fait être inspiré par Dieu dans nos prières et dans nos prières pour les autres. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce que ben, moi je priais, voilà, comme j'avais toujours appris, c'était pas du par cœur, mais... Et là, ça m'a interpellée. Et alors du coup, j'ai commencé à aller avec Morissette dans un groupe de maison, et là, j'ai appris ce que c'était vraiment d'écouter le Saint-Esprit et tout ça. Jusqu'au jour où j'ai même été baptisée dans le Saint-Esprit, ça a bouleversé ma vie, ça s'est passé en 2006. Et là, je peux dire que j'ai redécouvert ma Bible et j'ai colorié en jaune partout où il y avait le Saint-Esprit. Mais il y en a partout, même dans l'Ancien Testament. Et je me disais, mais c'est pas vrai, on m'avait pas dit ça, on m'avait pas dit ça, je savais pas, depuis tout ce temps, je savais pas. Et je colorie en jaune partout dans ma Bible, je dis, mais le Saint-Esprit, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, et on se passe de ça, c'est tellement dommage. Donc, pour vous, c'est peut-être une évidence aujourd'hui, mais voilà, pour moi, ça a été une grande découverte. Et puis donc, avec Morissette, petit à petit, on a commencé à former un groupe de prière où on se réunissait de temps en temps pour prier pour nos familles, nos enfants. Et puis, on participait à des rencontres de femmes à ce moment-là qui nous ont beaucoup encouragées. Et un jour, ma mère, elle est venue aussi avec moi à une de ces rencontres de femmes. Elle avait vu le tract chez moi, elle m'a dit « il faut que j'y aille », alors elle y va. Elle a été aussi très touchée. Et puis elle a décidé d'en organiser une avec la même oratrice, là où mes parents habitent, en Franche-Comté, au Ballon d'Alsace. Et puis, comme c'était maman qui l'organisait, elle dit « Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous veniez prier sur place 2 mois avant que ça se passe pour qu'on prépare nos cœurs, qu'on prépare le lieu et tout ça. » Et il ne me semble pas qu'on avait fait ça avant. Et du coup, on est allé en avance. Et puis on s'est dit bah, « Tiens, on va aller au Ballon d'Alsace. » Et puis on va simplement louer le Seigneur sur le Ballon d'Alsace. Et on a commencé à louer le Seigneur. On avait pris une guitare. Il faisait pas très beau. On était un peu fous. Mais on s'est dit bah, « Non, c'est une bonne chose à faire. » Et puis, il y avait vraiment beaucoup de brouillard. Et au fur et à mesure qu'on louait le Seigneur, le brouillard s'est dégagé. Et puis, chose incroyable pour la région, on a vu des aigles voler juste en dessous de nous. Il y avait 9 aigles dans mon souvenir. Et il y avait des gens de la région qui étaient là, des amis d'église de mes parents qui étaient là, qui étaient tout émus en disant « Mais on n'a jamais vu ça, il n'y en a pas ici, c'est pas possible. » Et donc pour nous, c'était vraiment un signe encourageant du Seigneur de voir qu'il nous montrait qu'il nous entendait. Et puis la suite de cette histoire, c'est qu'on a pris le train pour rentrer sur Paris après ce week-end. Et puis il y a une amie du groupe qui dit « Je voudrais une barre chocolatée ». Donc on se lève et on va à la voiture bar du train. Et puis là, dans le train, bah, on rencontre Saïd Oujibou. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais nous, on l'avait vu en orateur à des conventions. Et puis il se trouve que Morissette le connaît bien. Et du coup, on dit « Ah, bonjour Saïd, mais qu'est-ce que tu fais dans ce train ?» tout ça. Alors il dit « Ben moi, j'étais à une convention à Montbéliard, tout ça. » Alors on va chercher Morissette et toute l'équipe qui était là, puis on dit « Ben venez, il y a Saïd et son équipe et tout. » On se remet tous dans le même wagon, puis pendant tout le voyage, on s'est exhorté, on s'est encouragé avec ce que le Seigneur avait fait. Et puis quand Saïd entend ce qu'on avait fait, nous, qu'on avait loué le Seigneur sur le Ballon d'Alsace, il dit « Mais alors, mais c'est incroyable, mais je comprends mieux ce qui m'est arrivé. » S'il y a eu des intercesseurs sur le territoire, je comprends ce qui m'est arrivé. Et en fait, il était dans le pays de Montbéliard, donc c'est un pays avec beaucoup d'ouvriers, des usines Peugeot, tout ça, là où j'ai grandi. Et lui, il est habitué dans ses conventions à voir souvent pas mal de jeunes débarquer en fond de réunion et à chercher la bagarre pour déranger, pour qu'ils puissent pas annoncer l'évangile et tout ça, parce qu'il a un ministère auprès des musulmans. Il dit, mais cette fois-ci, il y a des jeunes qui sont rentrés, mais ils n'ont pas cherché la bagarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais s'il y avait des intercesseurs sur le territoire, je comprends. Alors nous, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a bouleversée. Et j'ai compris à partir de ce moment-là qu'effectivement, le Seigneur, des fois, il nous appelle aussi à aller prier dans des endroits. Et pas toujours de chez nous, pas toujours dans nos salles. Et du coup, ben, le groupe a grandi comme ça, parce qu'on allait prier dans des endroits juste un peu avant ces rencontres de femmes. On fait partie de Paris Tout est possible, donc quand ils organisent des conventions, on va sur place aussi en avance, on prie dans la salle avant. Et puis le Seigneur a développé. Et donc Morissette a vraiment à cœur de prier pour la France. Et puis elle a une vision pour prier pour toute la France. Est-ce que je te laisse la raconter du coup ? Bon, tu me reprends si ça ne va pas. Alors un jour elle nous dit « J'ai la vision ». Qu'on devrait se tenir tout autour de la France par 2 et passer une journée à louer le Seigneur pour consacrer notre pays à Dieu. Et pour remettre les frontières, pour dire qu'on ne veut pas que tout ce qui pourrait rentrer dans notre pays puisse y rentrer. On veut remettre les frontières spirituelles et on veut bénir ce pays et on veut qu'il appartienne au Seigneur Jésus. Et du coup, on a été sur 12 points tout autour de la France face à toutes les frontières que nous avons. Et moi je me suis dit toute une journée, mais je savais même pas prier 1 heure d'affilée, alors jamais tenir quoi. Alors avec ma binôme, nous on s'est retrouvés face à la Suisse et on était sur un mont. Alors le petit clin d'œil du Seigneur, c'est qu'il a plu le jour d'avant, il a plu le jour d'après, ce jour là il a pas plu du tout, on a même attrapé des coups de soleil. Alors moi je disais, Seigneur, t'es sûr qu'on va faire ça sous la pluie? Et bref, donc on a commencé à 9h du matin. Et tous, là où nous étions, on a commencé à la même heure, et puis on s'est laissé inspirer par Saint-Esprit, on a chanté des chants, on a proclamé la parole de Dieu, et on a dit, on veut que notre pays il appartienne au Seigneur. Et on a fait ça jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à 21h, 22h. Et nous, c'était rigolo, parce qu'on était au-dessus, il y avait un terrain de foot plus bas, là où on était, puis d'un seul coup, on entend le grand, vous savez, la... Qui démarre les foot, ou enfin les supporters et tout. Puis pour nous, ça fait comme le son du chauffard. On s'est dit, ça y est, notre mission, elle est accomplie. Ça, c'était C'était marrant. Et puis, après, on s'est dit, mais la journée, elle a passé. Ben, on n'a pas fait passer. Et du coup, moi, ça m'a encouragée, quoi. Voilà que... Et puis, on revient de ça, on se dit, ouais, ça y est, on a accompli notre mission et tout. Et Morissette, elle dit, mais je ne vous avais pas encore dit la suite de la vision. Ah, je dis, ben, elle dit, il faut qu'on aille prier dans tous les départements de France. Alors, on lui dit, ben non, on va faire région par région. Elle a dit, non, il va falloir qu'on fasse département par département. Alors, ben, on a prié pour ça. On a demandé au Seigneur comment on allait faire ça. On a demandé son discernement parce que, voilà, quand on a une vision, il faut vraiment cette révélation. Et on ne se lance pas comme ça, à corps perdu. Et donc, ben, on a commencé par Paris. On a commencé autour de Paris. Et on faisait une journée le samedi. On commençait à 9h le matin. Plusieurs dans les voitures, hein, on était une quinzaine. On essayait d'entourer le département. Et puis on priait là où on était, en fonction de ce qu'on voyait dans les villages dans lesquels on traversait et tout ça. Et puis après, on se retrouvait vers 13-14h dans l'après-midi. Et là, on avait un endroit précis, un temps de louange et d'adoration simplement. Et on a reçu qu'il fallait déposer dans la terre 12 pierres sur lesquelles on avait écrit avec du blanc, un autel de louange et d'adoration à l'Éternel, notre Dieu. Et on les a laissés soit dans l'eau, soit dans la terre, dans tous les départements qu'on a fait. Et puis donc, une fois qu'on avait fait autour de Paris, on s'est dit, ben maintenant c'est un peu plus loin, comment on va faire? Alors on a pris des week-ends, samedi et dimanche, et puis on est allé un peu plus loin, puis on se payait une nuit d'hôtel. Et puis, de fil en aiguille, ça n'allait pas assez vite, donc on a fini par dire, ben on va prendre des vacances. Donc dans les vacances scolaires, on mettait 5-6 jours à la suite, et puis on allait dans un endroit, puis on faisait 5-6 départements d'affilée. Et du coup, dans chacun, enfin là, on a mis 3 ans et demi pour finir ça, on a fini en octobre 2016, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, je peux vous dire que, enfin, il n'y a aucune gloire pour nous, parce que si le Seigneur n'avait pas été avec nous, on n'aurait même pas été au bout de ça. Mais sachez que dans tous les départements de France, on a déposé ces pierres. En fait, on voulait... Vous savez que quand le péché a lieu quelque part, les ténèbres ont des droits sur un territoire. Et nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est à vraiment amener la présence de Dieu et à lui dire, maintenant, on ne veut plus que les ténèbres aient des droits ici. C'est toi, Jésus, c'est toi, Saint-Esprit, qui a les droits sur ce pays. Voilà. Et en tout cas, le dernier département qu'on a fait... On a eu cette vision de comme si on avait posé un plancher qui avait la forme du puzzle de tous les départements de France et qu'on avait posé un plancher sur toute la France pour inviter le retour de Jésus qui vienne danser avec son épouse, la France. Enfin, on sait qu'il y a toutes les nations, mais nous, c'est notre pays qu'on a à cœur. Et on a été encouragés par cette vision de voir comme si c'était un bal de fête pour la France. Voilà. Il nous reste, on n'a fait que la France métropole. Donc voilà, on voudrait faire la France de l'autre côté de la mer encore. Voilà. Bon, du coup, je vais laisser la parole à Morissette pour qu'elle nous explique un peu plus ce que c'est que l'intercession et notre façon de la voir. En tout cas, au fur et à mesure que je faisais ça, les versets dans la parole qui parlent de territoire, qui parlent de lieux, qui parlent de rebâtir des murailles, qui parlent de... Ben, tout ça, ça me parle de plus en plus. Et donc, voilà, on voit que des fois on fait des choses qu'on ne comprend pas et qu'à vue humaine on se dit, mais c'est bizarre. Mais des fois il ne faut pas s'arrêter à ça parce que sinon on ne ferait rien. Et le Seigneur, des fois, fait la grâce aussi de confirmer après dans sa parole, de nous montrer que oui, ça a été fait, que redresser des murailles, tout ça, c'est aussi redresser des autels, tout ça, de louange et d'adoration, c'est ce qu'on a fait. Voilà, je te laisse la parole. Bah, tu veux que je dise quoi? Très bien. Bon, au fur et à mesure, le Seigneur il développe les dons aussi pour d'autres choses. Mais...
Merci de nous accueillir, merci de nous faire de votre confiance. Je suis très touchée et c'est vrai que le Seigneur commence à nous envoyer maintenant un peu partout pour que on puisse, le peuple de Dieu puisse réaliser que voilà, la France a été faite et c'est notre devoir de fouler. Il est écrit dans 1 Josué 3, je me suis cassé un peu les cordes vocales il y a deux jours, ça revient apparemment, et comme il a dit à Moïse, tout ce que la plante de ton pied foulera, je te le donne. Donc tout ce que vous foulez vous appartient. C'est une promesse, c'est pas une parole en l'air, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc quand vous faites vos courses, lorsque vous foulez jusqu'à votre travail, si vous voyez des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, en foulant, Seigneur, ça m'appartient. Ça n'appartient pas à l'ennemi, c'est à toi que ça appartient, ce territoire. Et on pourrait dire aussi, une fois par an, nous faisons pari. Alors pour en revenir un peu à ce qu'Claire a dit, c'est vrai que ce n'était pas toujours évident, parce que ça a été aussi de nos propres deniers, ça a été aussi, Seigneur a aidé, où, à un certain moment, il nous a aidés. Et aussi pour toutes les familles que nous laissions derrière, avec les enfants et tout ça. Et ça a été une grâce, ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été une grâce d'aller jusqu'au bout de la mission que Dieu nous avait confiée. Parce que les départements, il fallait les faire. Quand on s'est retrouvés sur les Pyrénées, on a fait 2200 kilomètres, descendant Paris, après les Pays Basques, enfin, on est remonté par l'Ariège, etc. etc. Il nous fallait bien 6 jours. Il nous fallait bien 6 jours. Voilà. Donc, je voulais un peu vous parler de Paris et de votre quartier avant de commencer. Qu'est-ce qu'un intercesseur ? Vous devez reprendre ce quartier.
Amen.
C'est un quartier oppressant. Moi, quand je suis venue, parce que merci beaucoup aussi d'avoir, enfin, que ces portes soient ouvertes pour que la marche pour Jésus, parce que l'intercession se passe ici pour la marche pour Jésus. Et le premier soir où je suis arrivée, d'ailleurs, c'est la première fois que je me perds. J'avais l'impression qu'on ne voulait pas que j'arrive dans ces lieux. Et quand je suis arrivée, je ne sais pas si Ruth est là. Ah ben voilà, bonjour Ruth. Et donc j'ai dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'il doit déguster votre pasteur ici? Et j'ai dit, il faut vraiment prier pour lui, quoi. C'est comme si c'était bien ciblé, vous étiez bien ciblé. Mais c'est à nous de reprendre ce terrain, ce territoire. Vous n'êtes pas à n'importe quel endroit, pas très loin d'ici, la révolution a été faite. Et quand le Seigneur dit, reprenez vos flambeaux, c'est, il ne faut pas laisser le flambeau à l'ennemi, hein, au diable et à ses démons. On va parler franc, hein, parce que l'intercession, on parle franc. C'est comme ça. Donc, les flambeaux, c'est nous qui le tenons. Ce n'est pas le diable qui tient le flambeau. Il faut reprendre ces coins révolutionnaires, parce que ça ressort de terre à l'heure actuelle. On le sent, on le voit. Il y a quelque chose qui va se passer en France. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons être les uns près des autres, prier les uns pour les autres. Très, très important. Et pour ceux que Dieu a mis en place, entre autres les pasteurs. Moi, je travaille aussi avec les églises catholiques, pas tous, mais il y a des prêtres qui en veulent, qui ne sont plus du tout dans cette doctrine enfermée. Il y a des leaders qui se lèvent. Il faut prier pour les jeunes, parce que les jeunes, il faut qu'ils soient fortifiés. S'ils partent dans le monde... Aïe, 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 comment vont-ils revenir à la parole de Dieu? Comment vont-ils faire? C'est tellement tentant à l'extérieur, c'est tellement tentant ces choses. Je suis mariée depuis, ça va faire en avril, 44 ans. J'ai 2 filles qui appartiennent au Seigneur, J'ai une qui est missionnaire, qui est actuellement à Hawaï, et qui est à Hawaï, voilà. Voilà, et Barbara qui est sur Paris, c'est la Parisienne dans l'âme, et qui travaille, elle, à France Télévisions, qui a un poste important, mais qui prévient aussi les médias de ce qui se passe. Quand vos portables sont allumés, quand vous envoyez des mails, lorsque vous envoyez des choses, tout est classé, tout est mis de côté. On sait qui vous êtes, et lorsqu'on viendra nous chercher, je ne sais pas si on verra ce temps, mais quand la persécution sera là, on saura qui venir chercher. Les jeunes, soyez vraiment prudents à ce que vous écrivez, à ce que vous faites sur Internet, s'il vous plaît. C'est pas moi que vous devez entendre. Demandez au Seigneur qu'il vous éclaire. Je suis rien, moi. Peut-être un porte-parole, un peu, voilà. Mais voilà, soyez très, très prudents. Très prudents. Surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, donc une fois par an, nous faisons pari, et cette année, nous avons décidé, j'avais ça sur mon cœur, et merci à l'équipe, parce qu'elle fait vraiment confiance, Alors là, on est une petite poignée, mais il y a des hommes. Je vous rassure, dans l'intercession, il y a des hommes. Amen. Il n'y a pas que des femmes. Amen. Mais c'est souvent les femmes qui se lèvent pour l'intercession. Amen. Parce que les hommes, un jour, il y a un homme qui m'a dit, il a suivi un peu, puis il a dit, c'est trop fatigant, mais c'est... Ah non, je préfère rester chez moi.
J'ai dit, bah, que Dieu te bénisse chez toi.
Voilà, donc, mais il y a des hommes, il y a des hommes qui se lèvent. Donc cette année, nous avons décidé, et la plupart du temps, je regarde ça devant mon poste de télévision. Alors mon mari, il s'enferme dans la chambre, je pleure, je hurle, je... voilà, on a décidé de faire le défilé du 14 juillet, à la place de le regarder devant le poste de télé, et de prier pour ceux qui défendent la nation. Qu'ils soient vraiment convaincus que le Saint-Esprit, que des hommes se lèvent pour la nation, des chrétiens affermis, des femmes affermies, dans tous les domaines, pour ceux qui défendent ce pays. Il y a tellement de choses contraires qui se passent, tellement de choses contraires. Donc, il faut prier pour ça. Et nous, on sera au milieu de cette foule. Et ça va venir de partout, parce que l'équipe, elle est nationale. Il y en a qui viennent de partout, de Normandie, du centre de la France. Enfin, bon, c'est un peu dispersé, mais nous sommes tous unis ensemble. Tous unis ensemble. Voilà, donc cette année, ça sera ça. On a commencé Paris par l'Arc de Triomphe. Et j'avais reçu dans mon cœur qu'il fallait le faire pendant 3 ans. Alors, je ne vous dis pas au départ, je me suis dit, aïe, 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 Seigneur, avec tout ce qui se passe. J'entendais toujours des intercesseurs qui disaient, vous allez vous en prendre plein la figure. Et ce n'était pas rassurant, hein. J'ai dit, oh là là, Seigneur, si on doit faire Paris, on va s'en prendre plein la figure. On me dit que c'est pas, faut faire attention. Donc on s'est préparé, mais je te préviens, Seigneur, je ne mènerai pas une équipe au casse-pipe. C'est ma première prière. Tu m'entends bien. Je ne mènerai pas une équipe au casse-pipe. Si c'est pas toi qui conduis, alors c'est même pas la peine de commencer. Et donc on a commencé par l'Arc de Triomphe, je me souviens. Et cette année-là, j'avais pris une bannière du Lion. Et en haut de l'Arc de Triomphe, en montant les 289 marches, j'arrive là-haut et je dis à une partie de l'équipe, couvrez-moi. Et là, j'ai pris la bannière du Lion et je proclame, je dis, Seigneur, que c'est les Champs-Élysées un jour t'appartiendront. Et c'est le peuple de Dieu qui descendra. Et je proclame qu'on descendra avec des bannières, avec des tambourins, etc. Et il n'y a pas longtemps, Madame Hidalgo, parce que c'est quand même un lieu, c'est piéton, je crois, les Champs-Élysées, une fois par mois, le dimanche. Et quand on a entendu ça, on dit, ah, Seigneur, ça, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un point de gagné. La deuxième année, nous sommes allés avec les chauffards. Enfin, j'avais un chauffard, toujours, alors, je ne vous le dis pas, hein, parce qu'il y a quand même les caméras, hein, c'est un risque. Oh, alors, on a pris ce risque. Et puis, il y avait un vent, il y avait de la pluie. Alors, je ne vous dis pas quel temps on était, mais j'ai dit, Seigneur, que ce vent, il cesse. Mais Seigneur, il a bien fait les choses. Parce que cette année-là, aux quatre coins, je ne sais pas si vous êtes monté sur l'Arc de Triomphe, mais sur les quatre coins de l'Arc de Triomphe, maintenant, il y a des gardiens. Ça zieute un peu de partout. Et il y avait tellement de vent, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Et puis, j'ai soufflé mon chauffard, tout de suite, toujours en face des Champs-Élysées, et on a pris position. Et alors, mais après, j'ai compris, parce qu'on a fait les quatre coins. Mais pendant que les gardiens faisaient les quatre coins, nous, on se déplaçait. Ils entendaient bien un son, mais comme il y avait du vent, ils ne comprenaient pas d'où il venait ce son du chauffard. Enfin, ils entendaient quelque chose. Et donc, on a fait les quatre coins comme ça. Et quand il est arrivé, à notre hauteur, j'avais déjà rangé mon chauffard. Il était dans mon étui, comme si rien ne s'était passé. La troisième année, nous avions reçu qu'il fallait fouler. Alors là, Champs-Élysées, on avait des versets bibliques dans les chaussures. Et nous étions une douzaine, c'est ça? Même pas une dizaine, Claire. Hein? Peut-être pas. Tu étais là, Sylvie, pour la première fois, je crois. Et alors, on avait reçu... on foulait, comme voilà. Tout ce que tu fous, je te le donne. Ben, je sais bien, tout ce que on foule, ben merci, c'est à nous. On était descendu jusqu'au... plus bas, après le palais, je crois. Concorde, à la Concorde. Et à un moment donné, il y en a qui descendaient avec les comme ça. Et quand on est remonté, Et là, du haut lorsque nous étions montés sur l'Arc de Triomphe, j'avais entendu une rumeur, mais pas une bonne rumeur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette rumeur? C'est quoi ces cris? C'est quoi cette chose qui arrive de loin? Et j'avais pas compris, mais pendant que nous descendions les Champs-Élysées, que nous foulions les Champs-Élysées, donc il y en avait 5 d'un côté, je crois, il y avait une équipe de 5 d'un côté gauche et l'autre côté droit. Je sais quoi, et j'entendais toujours cette rumeur. Et ce jour-là, il y avait un match de foot à la télé, l'Algérie contre les Français. Et alors, lorsque nous sommes remontés les Champs-Élysées, ceux qui étaient à gauche se retrouvaient à droite, etc., etc., et je vois l'équipe de Claire courir. Je me dis, pourquoi elle court? Je ne comprends pas pourquoi elle court. Mais nous, là où nous étions placés, on n'entendait pas la rumeur arriver. Donc, il y avait une rumeur. Et du coup, on a dit, on est au même pas, on court. Et donc, nous sommes mis à courir, à remonter les Champs-Élysées. Et lorsque nous sommes arrivés là-haut, Claire, elle dit, mais tu ne vois pas tout ce qui se passe? J'ai dit, écoute, de notre côté, on ne voyait rien. Et là, ils arrivaient avec leur drapeau. Et il faut que je vous explique que la veille, le Seigneur m'avait dit, prends ton manteau, prends un manteau et sépare le bien du mal, sépare l'agressivité et reprends cela pour Paris. Je n'avais pas compris, donc j'ai obéi. Des fois, je ne comprends pas tout, hein, je vous avoue sincèrement, mais j'ai obéi. Donc chez moi, j'ai pris mon manteau et voilà, j'ai dit, Seigneur, je sépare que ce qui va se faire, je ne comprends pas, les eaux sales, les eaux propres. Et je proclame que Paris, c'est une eau propre. Et donc, on arrive là-haut, aux Champs-Élysées, et là, je vois une meute de jeunes Algériens qui brandissaient leur drapeau parce qu'ils avaient gagné, bon, ben, c'est bien, mais pas dans le bon sens. Et là, on a vu les CRS arriver, nous avons vu la police arriver, et il était 17h, et à cette heure-là, les anciens combattants rallumer la flamme, d'accord? Ils provoquaient les anciens combattants. La France est à nous, la France est à nous. Alors, c'est la chose à ne pas dire devant moi. Et j'ai dit à l'ingénieur, non, la France, voilà. Alors, et puis, on a pris une position. Et là, tout le monde a eu un peu peur. J'ai dit, souvenez-vous, on va lever les yeux, les regards vers les cieux. Seigneur, tu as dit que nous séparions. Et là, ça commence à être agressif. On a prié pour les CRS. Et puis les CRS, vous voyez rien. On a symboliquement les pris de Bruxelles pour que toutes les paroles d'agressivité qu'ils entendaient, Seigneur, on a saigné. Et puis, à un moment donné, on s'est mis, on a fait ça. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Il fallait que le Seigneur m'aide. Avec mon drapeau, avec le lion. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Et j'avais dit à l'équipe, tout le monde voulait partir parce qu'on sentait que ça allait chauffer sérieusement. J'ai dit non, c'est là que commence notre travail. Et nous avons levé les regards, j'ai dit, levez les regards vers les cieux. Et là, comment ça s'est passé, on n'en sait rien, parce qu'ils étaient quand même des centaines, nous étions une petite dizaine, ils auraient pu nous bousculer. On s'est retrouvés au milieu d'eux, il y en a un qui a regardé le drapeau, il ne comprenait pas. C'est comme si nous étions invisibles, c'est pas compliqué. Et là, les CRS, la police est arrivée. Ils les ont séparés, ce qui fait qu'en 5 minutes, même pas 5 minutes de temps, tout a été nettoyé. Il n'y avait plus rien. Et j'ai dit, voilà à quoi nous avons servi aujourd'hui. Merci Seigneur. Voilà, ça c'est ça l'intercession. Et sans violence, voilà, sans violence. Alors qu'ils commençaient à monter sur les voitures, commençaient à insulter un peu tout le monde, et ça s'est fait vraiment sans violence. Donc, à partir de ce moment-là, on dit, oui, c'est vrai, c'est vraiment un appel.
Le chauffard, tu pourrais expliquer un petit peu?
Ah, le chauffard, la trompette, c'est écrit dans la parole. Le chauffard, alors nous l'avons fait sur tous les territoires, c'est-à-dire que lorsque nous entourions un territoire, parce que nous étions parfois une dizaine, une quinzaine, tout dépendait de la disponibilité de chacun et de chacune, et on se retrouvait par 4 ou 5 dans chaque voiture, et on n'était jamais au même endroit, c'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes dans un endroit, 4 dans l'autre, tout dépendait de ce que nous avions reçu, et on entourait comme ça le territoire. Et à la même heure, on soufflait le chauffard et on prenait nombre Nombre 19, si vous voulez bien le lire. Nombre 19. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Voilà à quoi il servait notre son du chauffard. On se rappelait à l'Éternel en disant, Seigneur, nous sommes là et c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Voilà, c'était un positionnement, on ne commençait jamais sans rappeler ce verset et avant de souffler le chauffard. Donc tout le monde, voilà à quoi il servait. Et le peuple d'Israël, quand il annonce une guerre, c'est la première chose qu'il fait, il prend, quand ils savent que une guerre arrive, une émeute arrive, ils sonnent le chauffard, ils se préviennent les uns les autres. Alors, on aurait des tas de choses à vous raconter, je vous raconterai ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'un intercesseur? Qu'est-ce qu'intercéder? En hébreu, le mot pagar, signifie se mettre entre et se lever contre. Nous, on va se mettre entre le peuple et Dieu, donc on va prier dans le sens où, pour une protection par rapport au peuple. Et contre, bien sûr, contre les ennemis, contre celui qui veut nous attaquer, contre celui qui rôde chaque jour. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, disent les Écritures, mais contre les puissances, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est aller ou passer entre aussi. Et dans l'intercession, il y a des degrés, et le Seigneur nous a fait monter des degrés dans l'intercession. On ne devient pas un intercesseur de territoire parce que nous avons décidé, mais c'est parce que Dieu a décidé pour nous. Et surtout, si un jour vous devez fouler quelque chose, toujours deux par deux. Et si vous ne vous attaquez pas aux puissances, Dieu n'en a pas fini avec ça. Alors on n'est pas plus fort que Dieu, et Dieu n'en a pas fini avec le diable. Si vous ne savez pas, vous bénissez votre région, vous bénissez vos avenues, vous bénissez votre rue. Et Seigneur, je dis, je bénis et je reprends mon terrain, parce qu'il est à toi. Donc, sois très prudent. Sinon, on peut être vite... Il y en a qui nous attend au tournant. D'accord ? Alors, l'intercesseur, c'est aussi un pont pour faire passer le cœur de Dieu. Pour que tous les hommes soient sauvés, comme le disait Marc tout à l'heure. Pour que tous les hommes soient sauvés. Donc, la première chose que nous faisions sur un territoire, déjà, pour préparer un territoire, on mettait à peu près trois semaines, un mois. On jeûnait, mercredi soir, vers la fin, c'était un peu pesant de jeûner, alors... On avait toujours des fruits, des choses comme ça. Parce que, voilà. Mais c'était, on n'avait pas les mains dans les poches sur un département. Parce que chaque département est différent. Dans chaque département, il y a des puissances qui sont en activité plus que d'autres. Le centre de la France, c'est le centre de la sorcellerie puissante. Faut appeler un chat pour pas faire semblant. On n'est pas là pour faire semblant. C'est puissant. Donc si nous, on ne se préparait pas, il y en a un qui nous attendait au tournant. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que si on ne voit pas le monde invisible, lui nous connaît bien. Il sait qui nous sommes. C'est pas compliqué. Hier, nous étions à une réunion. Ben, je peux vous assurer, je ne suis pas nommée, mais il y en avait une qui devait, sûrement dans les loges, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, elle savait qui nous étions parce qu'elle ne suivait pas d'autres équipiers de prière. Qu'est-ce qu'elle suivait? L'intercession. Elle avait bien compris, enfin, cet esprit-là avait bien compris qui nous étions. Donc, le monde démoniaque sait qui vous êtes. Il peut se rire, parce que si on n'est pas, armé, oui, merci, si on n'est pas armé, et si on pêche, enfin, on pêche, tous des pêcheurs, pas injustes, dit la Bible. Donc, il ne faut pas nous regarder comme des extra-spirituels, on a nos défauts, on a nos caractères, il ne faut surtout pas nous regarder comme ça. On est... Voilà, comme tout le monde, on fait partie de ce peuple souvent bien désobéissant. Mais le monde démoniaque sait qui nous sommes. Donc, armons-nous. Qu'est-ce que dit Éphésiens 6? Qu'est-ce qu'il dit, Éphésiens 6? De s'armer. Tu as le verset? Non, je... Voilà, il est dit, l'armure, et c'est un ordre, revêtez-vous. Il n'est pas dit de temps en temps, quand on a envie. Il est dit, revêtez-vous. C'est un ordre que Jésus nous donne. La ceinture. Seigneur, merci pour ta ceinture de vérité. Que mes reins soient toujours dans cette vérité. Merci Seigneur pour cette cuirasse de justice. Tu es ma justice. Amen. Tu es le soleil de justice. Et merci parce que c'est toi, Seigneur, qui me maintiens dans tout ça. Et puis, merci pour les chaussures du zèle. Amen. Seigneur, que je puisse fouler, que je puisse courir, Seigneur, pour reprendre le terrain. Et courir pour annoncer ta parole. Amen. Courir pour dire, oui, Jésus est vivant. Jésus revient. Jésus est mon sauveur. Et vous avez aussi, là-dedans, vous avez aussi le bouclier. Et le bouclier de la foi, il est dit. Donc tu dois avancer par la foi. On doit avancer par la foi. Même si on ne comprend pas tout. Quand on entend la voix de Dieu, quand on la discerne, c'est une seconde après c'est trop tard. Si on n'obéit pas, on a le droit de se dire, Seigneur, au départ, et on a le droit de se tromper. Moi, je disais toujours à l'équipe, on a le droit de se tromper. On ne va pas se juger entre nous. On apprend à être à l'écoute, on apprend les choses, alors on a le droit de s'entraîner. Mais le bouclier, Seigneur, que nous puissions bien le manier pour arrêter les flèches enflammées du malin. Et puis après, qu'est-ce que vous avez? Le casque du salut. Seigneur, que je puisse entendre ce que tu as à me dire. Merci pour le salut, merci pour mon salut. Donne-moi des yeux d'aigle, Seigneur, dans ce casque, que je puisse respirer tes parfums, que je puisse voir ce que l'ennemi a prévu. Qu'est-ce que je puisse voir et contempler ta gloire au travers de tout ça. Et puis, il y a l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque nous faisions ce geste en disant, Seigneur, nous plantons cette épée dans ce territoire, nous étions ensemble. Et c'est le fait d'être ensemble et de planter la parole de Dieu là où nous passons. Alors, je vais revenir à... Voilà, l'intercesseur, c'est donc aussi un pont pour faire passer le cœur de Dieu, pour que tous les hommes soient sauvés, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est aussi un médiateur, qui veut dire, qui sert d'intermédiaire, d'arbitre, de conciliateur. C'est l'attitude de Daniel et de Néhémie. Hein? Relisez, c'est Néhémie et Daniel. C'est vraiment une attitude qu'ils avaient. Et notre modèle d'intercession, ben, c'est Christ, tout simplement. Dans Hébreux, voilà. Tu le lis, Claire? Alors, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder. Il est bien dit, pour intercéder en notre faveur. Il y a la prière, il y a la supplication, il y a l'action de grâce. Tout ça, ce sont des degrés de prière. Il ne faut pas tout mélanger. Et quand il est écrit « intercéder », c'est-à-dire que tu intercèdes, Jésus intercède jusqu'à ce que l'intercession soit accomplie. Amen. Quand vous devez mener une intercession, ce n'est pas simplement 5 minutes, 10 minutes, ce n'est pas vrai. Quand je vous expliquerai quelque chose tout à l'heure. Quand l'intercession vous prend, ça peut durer des heures. Et à un moment donné, plus rien, c'est comme si tout est naturel. Parce que là, vous avez accompli ce que Dieu a vous demandé de faire. Alors l'intercesseur se tient sur la brèche. Et la brèche est égale à quoi? À une fissure, à une crevasse. Quand vous avez une fissure, une crevasse devant vous, vous imaginez, c'est ça. L'intercesseur, il est là pour réparer, enfin, avec la grâce de Dieu, quand on est à l'écoute, de réparer cette brèche. Il doit se placer, c'est pourquoi il devient un pont, ça devient un plomb. Il établit une frontière entre Dieu et les hommes. Alors, c'est vrai que les intercesseurs ont de forts caractères des fois, mais je dis souvent, Seigneur, pas toujours agréable de dire les choses, mais il le faut, parfois il le faut. Et voilà. Et un intercesseur qui va encadrer, c'est pourquoi il doit savoir aussi discerner la voix de Dieu. Il y a trois voix qui peuvent nous interpeller. Nous-mêmes, notre propre voix à nous, celui qui rôde, et la voix de Dieu, qui est beaucoup plus subtile. Et le Saint-Esprit va vous parler en une seconde, une fraction de seconde. Et c'est là qu'il faut savoir discerner, demander au Seigneur. Proverbe 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Pas moi qui l'invente. C'est écrit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. C'est ça, ici. C'est ça ici aussi. Chaque jour. Et en garder hein, les montants. Dans d'autres versions, c'était dit, il est écrit qui monte la garde près des montants de ma porte. Mmh. Dieu nous attend à sa porte pour veiller. Mmh. Et Dieu, c'est au travers de ça que Dieu parlera souvent pour nous donner des instructions. C'est ce qui doit être fait dans l'intercession. Et c'est, l'intercession prend naissance donc dans le cœur de Dieu. Ce ne sont pas nos requêtes à nous. Ça, c'est la prière. Ouais. Ça peut être une requête, une demande, un besoin en particulier. Mais l'intercession, elle prend naissance dans le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Enfin, on essaie d'être à l'écoute, je dis bien. Et on ne garde pas comme des supraspirituels, parce que là, vous allez vous tromper. Hein. Car seul le cœur de Dieu connaît les profondeurs d'une compassion. Seul le cœur de Dieu connaît cette profondeur. Et c'est alors que celle-ci est déversée dans le cœur de l'homme qui prie et que Dieu exauce. Dieu va exaucer parce que c'est son cœur qui nous a donné, ce sont ses pensées qui nous a donné pour que nous puissions intercéder. Et là, la prière est exaucée. Lorsque nous avons prié pour des départements, on va nommer le 94 par exemple, je crois que ça devait être le deuxième département que nous faisions sur Paris. Et Seigneur nous avait montré qu'il y avait une magouille sur ce département. C'est-à-dire qu'il y avait des mariages un peu illicites, c'est-à-dire que plusieurs hommes avaient plusieurs femmes, ils avaient des enfants, ils habitaient à droite, à gauche, on volait la société était volée parce que voilà. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, on ne va pas tout déballer, mais il y avait plein de choses comme ça. Et à un moment donné, donc nous avions prié pour ça, quand on était sur le département, on priait pour ça. Peut-être une semaine après, moi je disais aux filles, il faut vraiment écouter les informations, je suis sûre qu'on va entendre des choses. Et le fait est, ils avaient lancé des inspecteurs, sécurité sociale, familiale, enfin bon, tout ce que vous voulez, et ces choses ont été dévoilées. Même un entrepreneur, mais c'était des millions qu'il avait amassés, une seule société, il avait dit ouais, je n'ai qu'une société, il en avait quatre et les autres ils s'empochaient tout l'argent et tout ça a été dévoilé sur ce 94. On est ah Seigneur, merci encore. Et à chaque fois qu'on priait pour un département, le Seigneur nous montrait le péché qui régnait sur ce département. Parfois, il faut savoir que si on peut être influencé là où on habite par le péché qui domine. N'oubliez jamais ça. Même nous, chrétiens, on peut être influencés par le péché qui domine là où nous demeurons. Si dans l'immeuble où vous êtes, il y a des choses qui se passent impures, l'impureté, l'adultère, le vol, je ne sais trop quoi encore, la magouille, et bien à un moment donné, réalisez qu'on peut être impacté. Et on peut être impacté surtout par l'impureté, par les choses impures. Parce qu'on se dit, bah, voler, non Seigneur, je ne l'ai pas volé. Mais nos pensées. Alors Dieu exauce. La prière va influencer Dieu à agir. Notre intercession va influencer Dieu à agir. Mais elle n'aura aucune influence sur sa nature. C'est pas nous qui allons influencer le cœur, sa nature. Encore moins ses motivations. Par contre, elle pourra avoir une influence sur ses actions, notre prière. Donc, aucune influence sur sa nature. Dieu est Dieu, Dieu est un Dieu juste. Dieu juge, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et il est un Dieu d'abondance, un Dieu miséricorde. Mais même dans la miséricorde, il juge aussi nos péchés, etc. Et puis, ses motivations ne sont pas nos motivations. Moi, j'ai pas envie parfois de me lever la nuit pour prier. Je peux pas me laisser un peu dormir, Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin de repos. Ah ben non, tu vas te lever. Parce que si vous restez couché, vous êtes sûr que vous allez vous endormir. Donc il faut se lever. Et alors, mais par contre, sur mes actions, le Seigneur va faire les choses parce que je suis dans l'obéissance. Voilà. 1 Samuel 2:25. « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. C'est ce que je vous ai dit. C'est le jugement de Dieu. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui, pour cet homme? Qui intercédera pour cet homme qui pêche contre l'Éternel, qui lève le poing contre l'Éternel? Moi, j'avais un papa qui n'était pas du tout croyant et qui levait souvent le poing contre Dieu et qui insultait Dieu. Et lorsque il venait à la maison, parfois, il insultait Dieu. Et un jour, mon mari, il était un peu choqué. Je lui ai dit, ma maison appartient à l'Éternel. Je te demande de sortir de chez moi, de chez nous. Et quand tu seras plus sage, tu reviendras, la porte est toujours ouverte. Mais je t'interdis d'insulter Dieu chez moi. Et mon mari m'a regardé, il m'a dit, tu ne vas pas faire ça. J'ai dit, si tu le ramènes au métro, pas question. 3 jours après, il est venu, il est revenu, il a demandé pardon. Je lui ai dit, tu es tout à fait pardonné. Mais à la maison, tu n'insulteras pas Dieu. Parce que la maison appartient à l'Éternel, mon Dieu. Et 20 jours avant son décès, bien sûr, je lui ai dit, écoute, papa, il va falloir peut-être, tu as envie de me revoir? Il m'a dit, oui, bien sûr que j'ai envie de te revoir. J'ai dit, oui, mais il fallait lui parler un peu cru. Je lui disais, mais c'est l'enfer ou le paradis? Qu'est-ce que tu choisis? Il n'a pas répondu. Et puis quelques jours après, parce qu'il était hospitalisé assez loin, donc avec mon mari, on faisait les allers-retours, chacun son tour. Et un soir, mon mari rentre et il me dit, ton père veut te parler. Je lui dis, bon, tu sais pourquoi? Il m'a dit, non, il ne m'a rien dit, c'est étonnant, parce qu'il épongeait bien son cœur devant mon mari. Il me dit, non, il ne m'a rien dit. Alors donc, le lendemain, c'était moi. Je lui ai parlé, tu voulais me parler? Il m'a dit, oui, je voulais te parler. Et il m'a dit, écoute, dans ma chambre, j'ai vu une grande lumière blanche. Et je peux vous assurer qu'il pouvait... Alors là, ce n'est pas la chose qu'il pouvait inventer, hein. Parce que lever le poing contre Dieu comme il le faisait, mais comme il m'avait demandé pardon, au moment où il a demandé pardon, je savais que mon père serait sauvé. Je savais qu'il serait pour l'éternité, qu'on le reverra. Et là, il m'a dit, le soir même, le fait est, il est parti, il m'a dit, tout va bien se passer. Et j'ai vécu un deuil comme je souhaite à chacun. Alors, bien sûr, les gens qui me voyaient se dire un peu machin, mais dans la joie. J'étais dans la joie, parce que je savais que mon père était près de... Il était au repos, près de son Dieu. Alors, avec tout sera jugé selon voilà, ce qu'il aura fait, etc. Mais quand même, il était sauvé. C'était ma seule prière avec mon père. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Je l'ai dit une fois, deux fois, mais je ne vais pas prier toute ma vie pour mes parents. Tu as dit, Seigneur. Donc je mets tes promesses en pratique. Alors maintenant, tu t'occupes de mon père. C'est comme ça. Aussi, ça, c'est une intercession aussi familiale pour vos enfants, pour vos parents. Alors l'intercesseur s'inclut aussi dans Daniel 9, 4, 19. La prière de Daniel, hein, c'est... Voilà. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Et qui observent ses commandements. Pardon, j'ai pas fini. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc, sa prière, c'était nous. Et avant d'intercéder, il est bon nous-mêmes de se remettre en question. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Aujourd'hui, je n'ai pas obéi, je n'ai pas dans la louise. Je me suis mise en colère, j'ai râlé, j'ai dit du mal d'un tel, etc. Pardon, Seigneur, je te demande pardon. Ne commencez surtout pas une intercession avant de vous remettre en question. C'est vraiment important, très important. Alors, c'est pour ça que Daniel dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Et rebelles, la rébellion est pareille à la sorcellerie. C'est la même chose. Quand tu es rebelle, tu deviens sorcier. Hein? C'est ce que, voilà. Nous sommes et nous nous sommes détournés de tes commandements. Alors, pardon, Seigneur, viens nous aider. Alors, il rappelle à Dieu qu'il ne juge pas. Il implore son Dieu. Il écoute, Seigneur, écoute la prière. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde où nous en sommes, Seigneur. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Et lorsque nous allons faire la marche pour Jésus, on ne fait pas la marche pour la marche. On fait la marche parce qu'il est temps de porter le nom de Jésus. Pas avec des faux semblants, pas avec nos masques. Qui sommes-nous pour faire ces choses? Qui sommes-nous pour faire semblant? Nous portons le nom de Jésus en nous. Et notre identité est en Christ. Cette identité, elle est dans nos entrailles. Nous devons vivre cette identité. Nous devons avoir cette valeur d'appartenir à Christ. Co-héritier, héritier avec le Fils, il est écrit. Tu n'es pas n'importe qui. Un roi, une reine, prince, princesse, il est écrit. Alors comportons-nous comme des rois et des princes, et des reines et des princesses. Alors, Daniel, il ne met pas en valeur la justice des hommes, hein, parce qu'il est dit, pas même un seul, pas injuste, dit la Bible. Donc, on est tous égaux. De ce côté-là, il n'y a pas de plus grand et de plus petit péché, que tu aies tué, volé, etc., machin. On est tous égaux. Pas injuste, pas même un seul. Mais à cause de tes grandes compassions, à cause de ton amour, à cause de qui tu es, eh bien, tu viens nous délivrer, tu viens nous donner ta compassion, tu viens nous racheter. Écoute, pardonne, dit-il. Hein? Il demande à Dieu d'être attentif à sa prière, à ce qu'il demande. Il lui demande d'agir et surtout de ne pas tarder. Alors demandons, soyons ces hommes, ces femmes honnêtes devant son trône. Vous savez, on se moque de l'homme, mais on ne se moque pas de Dieu. Dans chaque Bible, j'en ai là, celle-ci elle a fait la France, elle a fait abîmer. Et vous pouvez regarder chaque page, première page de ma Bible. Morissette, sache devant qui tu te trouves. Lorsque je lis, je prends la parole. Morissette, sache devant qui tu te trouves. Je ne me trouve pas devant n'importe qui. Je me trouve devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors il dit aussi, par amour pour toi, ô mon Dieu, dit-il. Il lui rappelle que c'est son nom qui est invoqué. Et il lui rappelle son caractère, le caractère de Dieu. Il lui rappelle qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est honorable dans son intercession. Il rappelle tout ça à son Dieu. Dans Jérémie 29, 7. Ah bah oui, vous avez vu la suite de Daniel, j'ai pas vu clair. Ah ok, c'est l'heure, on me dit que c'est l'heure. Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà, votre paix dépend de comment vous allez implorer votre Dieu là où vous êtes. Je ne sais pas si vous habitez tous Paris, mais si vous êtes sur Paris, implorez l'Éternel votre Dieu afin que sa paix puisse régner là où vous êtes. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, dit le Seigneur. C'est plus qu'une prière, c'est plus que des paroles. C'est Dieu veut rétablir les situations. Dans Job 42:10, il est dit « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. » Voilà, il a prié, et les prières de l'intercesseur, la prière de l'intercesseur va protéger. C'est pas, voilà, c'est « Est-ce que tu veux devenir un intercesseur ?» C'est l'heure, là, Claire ? Parce que moi, quand je parle de l'intercession, je suis passionnée. Donc, à combien de temps il me reste ? Encore 10 minutes. Faites-moi signe sur toi. Parce que moi, quand je commence à parler d'intercession, j'ai un cœur passionné. Alors là, dans 2 Chroniques 33-14 jusqu'au chapitre 34, donc ça serait trop long à lire, mais je vous invite à le relire. Le roi Josias bâtit une muraille. Pourquoi faire ? Pour ôter les dieux étrangers, dit voilà, pour rétablir l'autel. Pour que les guetteurs avertissent. Dieu met des guetteurs dans chaque ville. des portiers, on peut, des guetteurs, des portiers, des intercesseurs, on peut dire. Mais dans chaque, il met ça dans le cœur de l'homme, afin qu'on puisse avertir ce que l'ennemi est en train de faire. Quand l'ennemi arrivait dans la ville, il y avait des guetteurs, il y avait des gens qui avertissaient. Attention, il arrive. Comment nous avertissons-nous, le peuple de Dieu? Comment nous, est-ce qu'on peut s'avertir les uns les autres? Et là, le but de l'intercession, ça doit être le fardeau de Dieu. Et surtout de le maintenir. C'est-à-dire de la renommée de Dieu. On doit maintenir la renommée de Dieu. Son caractère. Seigneur, donne-moi ton caractère. Sa nature, pour toute la nation et pour nous, notre propre nation. Et de remercier le Seigneur pour que des hommes et des femmes qui soient venus de l'étranger pour s'établir comme pasteur ou comme leader. Alors l'intercesseur est celui qui met des limites de protection aussi. Pas toujours agréable de mettre des limites. Il s'engage aussi à se concentrer que sur la volonté de Dieu. Du moins, on essaie. On est bien d'accord. C'est vraiment un prix. Et c'est un prix à payer. Ça ne vient pas simplement en disant « je vais faire ça ». Non, non. Là, on se trompe. C'est un appel particulier. Ça fait partie, c'est vraiment un appel. On peut prier les uns pour les autres, mais l'intercession est un appel. Et l'intercesseur, c'est celui qui va partager les secrets de Dieu, de ce qu'il va recevoir, son cœur à cœur. Il voit aussi les choses à l'avance. Maintenant, j'ai plus honte de dire « il est prophétique ». Avant, j'avais peur de dire ça. J'ai dit « oh, Seigneur, mais comment est-ce qu'on va nous regarder ?» Mais non, il est prophétique, puisqu'il voit les choses à l'avance, puisque Dieu permet qu'il puisse dénoncer les choses et les voir. Et voilà, il faut relire les chapitres de Néhémie. Et pensons pas que d'être contrôlé par l'esprit, c'est le plus facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le plus compliqué, parce qu'on comprend pas tout. Et c'est pas toujours, ça nous est pas toujours donné et expliqué. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui va dire « Mais t'as vu ce que tu as fait là ?» Non, pas vraiment. Et ben voilà, nous avions prié pour ça. Je vais vous raconter une histoire. Voilà, je parle. Il y a aussi Moïse qui plaide dans Exode 32-32. Il y a Isaïe 53-5, Christ plaide notre faveur. Voilà. Timothée 2-5, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui plaide en notre faveur. La responsabilité de l'intercesseur, c'est d'avertir. Je vais aller un peu vite pour vous dire le plus possible. Même si le peuple n'a pas envie d'entendre, même si le peuple n'a pas envie d'entendre, notre responsabilité, c'est d'avertir. Si tu n'avertis pas, il est écrit, si son sang te retombera sur la tête. Mais si tu l'avertis et qu'il ne change pas de route, là, ce n'est pas mon problème. Ce n'est plus notre problème. Nous devons avertir. Et le rôle de l'intercesseur amène le désir de Dieu sur la terre. Et le désir de Dieu, c'est quoi? C'est de bénir, c'est d'ôter la malédiction, de la transformer en bénédiction, c'est de guérir l'âme et le corps. Par ses meurtrissures, nous dit la Bible, c'est, nous sommes guéris. C'est de délivrer les captifs. Ésaïe 58:6, détache les chaînes de la méchanceté. Dénonce les liens de la, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et le joug, c'est Satan qui le met sur nos épaules. C'est pas Dieu. C'est Satan qui nous pose des jougs sur les épaules. Hein? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, dit la Bible, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Les discours injurieux. Mais qu'est-ce que dit aussi Dieu ? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est la première chose qu'il demande. En faveur du pays. Si tu veux habiter en paix, il faut que tu te tiennes à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Mais je n'en trouve pas. Dieu lui-même s'est plaint à ce moment-là de la pénurie et du nombre des jugements qui auraient pu être évités. Il n'a pas envie de juger, il n'est pas là pour nous juger. Il est là, il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés, que le monde soit sauvé. Et nous, on vit notre petite vie dans notre zone de confort, on est bien installé. Puis on se dit, bon, de temps en temps, voilà. Mais non, c'est une vie de chaque jour, c'est quelque chose qu'on doit vivre chaque jour. Et s'il avait trouvé un homme à ce moment-là qui se tienne à la brèche, il ne se serait pas mis en colère. Jusqu'à là, il a retenu sa colère pendant qu'il cherchait un homme. Il a contenu toute sa colère. Après recherche, il n'en trouve pas, nous dit la parole. Alors, Dieu laisse agir sa colère. Ésaïe 59, 15, 16. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne et que personne n'intercède. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu s'étonner? Enfin, le terme exact de s'étonner, c'est attrister. Le Saint-Esprit est attristé parce qu'il n'y avait personne. Nous, on va dire, on va s'étonner. On est habitué. Oh, mais on s'étonne que Dieu, voilà. Non, il est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. En Ésaïe 59, avant que le Seigneur ne punisse le peuple comme il le méritait, il s'est mis à la recherche d'un homme. Que des intercesseurs puissent se lever pour ce pays. Qu'on puisse vraiment intercéder, être ensemble. Et que vous puissiez vous réunir, prier. Prier pour cette église, prier pour votre pasteur. Priez pour... Moi, j'ai entendu une très belle louange ce matin. Qui élève le nom de Dieu? Qui élève le nom de Dieu? Il n'y a pas de plus belle louange. Les restants, les chants avec moi, etc., machin. Là, ça élevait le nom de Dieu. Donc, c'est vraiment... C'est magnifique. Luc 22, 31-32, le Seigneur Jésus dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti ou sauvé, selon les traductions, affermis tes frères. Affermis tes frères. Donne, parle, approche-toi, dis-lui ton ressenti. Si tu as quelque chose, eh bien, d'abord peut-être en parler à l'autorité qui est en place, c'est normal. Voilà, j'ai ça. Est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'on peut le faire? On n'est pas plus grand que le Maître, on n'est pas plus grand que Jésus. Et avant de... La parole nous encourage donc à nous humilier nous-mêmes. D'abord, avant toute chose. S'humilier soi-même. Si vous prenez l'intercession, alors les oppressions seront ôtées, le mensonge. Et on sera à même de pouvoir prier contre ceux qui maudissent notre nation, nos églises, nos familles, nos enfants. Mais attention, il nous faut demeurer sous l'autorité de Dieu. C'est très important. Demander son cœur, sa sagesse et son discernement. Ne jamais sous-estimer le diable et ses démons. Ne jamais les sous-estimer. Notre mission n'est pas de détruire le diable, car Dieu, il en a, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'en a pas encore fini avec lui. Donc, on ne s'attaque pas à des puissances. D'accord ? Alors, Satan, c'est ce qu'il a fait, ça l'a conduit à la désobéissance. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, hein, et sa relation à la relation et au jugement de Dieu. Il se dit, moi, je peux faire. Et puis, ça a été sa chute. Et c'est nous qui, les hommes, qui récoltons ça, mais aussi devant la face de Dieu. C'est un combat spirituel. Et un combat spirituel mené avec une légèreté, ça manque de sagesse. Dans la stratégie. On ne combat pas sans en avoir demandé l'autorisation à Dieu. Il est écrit dans la parole, dans Osée 4, 6, faute de direction ou faute de vision, dans certaines versions, dit la Bible, le peuple dépérit ou le peuple meurt. Notre combat, il est dans les cieux. La terre, c'est que le miroir de ce qui se passe là-haut. Et si on veut, les cieux sont ébranlés et la terre est ébranlée. Nos prières d'intercession vont ébranler les cieux et Dieu va ébranler la terre. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà, en Ésaïe 13:13, simplement ça. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente de fureur. Agé 2:6, 7. Voilà, ça parle encore de j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, dit la parole. Donc, la parole est vivante et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et donc, c'est dans cette intimité, dans ce cœur à cœur avec Dieu que vous allez vraiment le rencontrer et que vous allez pouvoir recevoir sa, déjà sa sagesse, le discernement, mais aussi ses stratégies. Et vraiment, que vous puissiez recevoir les stratégies de Dieu dans vos intercessions. Et n'oubliez pas votre pasteur, parce que je maintiens. Il ne faut pas qu'il écoute. Il déguste. C'est la première chose quand je suis rentrée, un fameux lundi, ici. Donc, prenez soin de lui et de sa famille. Et de sa famille. Voilà, je pense que j'ai terminé, c'est bon. Voilà, je voulais aussi que Dieu vous bénisse, qu'il utilise votre cœur, qu'il devienne un intercesseur, qu'il fera toute la différence selon votre son cœur. Ah oui, un temps de prière, d'accord. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour qui tu es. Notre Père Céleste, nous te demandons de nous parler encore plus. Parle à nos cœurs. Viens nous parler du ciel, de ton cœur. Réveille-nous ton cœur de tes attentes. Nous désirons te connaître, savoir qui tu es, d'une façon vivante, nouvelle et fraîche. Viens nous parler de toi. Viens mettre tes fardeaux sur nos cœurs, Seigneur. Et si ton cœur est attristé, on te demande pardon. De cette désobéissance, de nos manques, de notre orgueil, de nos savoirs, et de mettre ces choses-là à la première place. Que ton onction ce matin, Seigneur, soit sur nous, qui apportons ta parole, et que ton onction sur ceux qui entendront ton cœur maintenant. Que nous puissions être touchés, transformés par tes révélations. Tu nous invites à franchir une nouvelle étape, et déposer le passé. Seigneur, touche notre cœur et qu'il vive. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.